une nuit debout qui débutera à 2h de l'après-midi avec plein d'activités. On va essayer de rassembler un maximum de monde et donc on vous appelle à venir à passer la nuit debout du jeudi 28 et jusqu'au 1er mai. C'est l'objectif de rester jusqu'au 1er mai, jusqu'à la fête du travail. Voilà.
Merci Emilien pour ce reportage. Tu les as trouvés comment ces jeunes lycéens, plutôt une conscience politique assez forte, beaucoup dans les suppositions, comment ils étaient ?
Bah oui, effectivement, une grande conscience politique, effectivement, malgré leur jeune âge. Après, ce qui ressort, c'est manifestement une grande inquiétude quand même par rapport à leur avenir. On a l'impression, et puis aussi une grande déconnexion, on le sent, avec les responsables politiques, quoi, qui ne se sentent pas du tout représentés. C'est quand même assez étonnant, malgré leur jeune âge.
Ouais. Est-ce que, alors moi, c'est peut-être une question pour vous, Sophie Renaud, une question que je me pose, c'est est-ce que ces personnes qui viennent à Nuit Debout connaissent le fonctionnement des institutions, notamment au niveau plus local? Parce que je sens qu'il y a, en tout cas, je perçois qu'il y a une vraie différence entre la politique, comme elle peut se jouer, se construire, être soumise à certains lobbies au niveau national, et puis des réalités locales qui sont d'un autre ordre. Et ça, c'est aussi très emprise, finalement, avec des propositions qui sont faites sur il faut qu'on vive autrement à l'échelle d'un territoire, etc. Donc il y a un lien aux politiques telles qu'il existe, peut-être à appréhender. Est-ce que cette conscience-là, elle existe, ou c'est une question farfelue de ma part, pourquoi pas?
Non, pas du tout. C'est très important. On est à la troisième décentralisation depuis l'ère Mitterrand. En vous écoutant, j'étais en train de penser qu'il y a une enquête publique en ce moment sur le contournement Est, et ça n'a pas été abordé à Nuit Debout. Ça serait intéressant, effectivement, de l'inscrire à l'ordre du jour, ou en tout cas de l'ouvrir dans un débat plus accessible, effectivement, aux citoyens, avec une présentation du projet simplifiée, où on comprend les enjeux, parce que lorsqu'on lit l'affiche, il faut s'accrocher déjà pour la traduire. Effectivement, ça, c'est un exemple. Pour ce qui concerne les institutions, moi j'ai eu affaire à des jeunes qui connaissaient très bien toutes les différentes structures au niveau régional, départemental, d'autant plus communal, puisqu'ils ont été reçus en délégation de 4 personnes auprès de monsieur le maire de la ville de Rouen à 2 reprises.
Et il en est sorti quoi de ces rencontres, vous savez, s'il y a eu déjà une écoute attentive
Oui, il y a eu des échanges assez longs, puisque les rendez-vous ont duré plus d'une heure, d'après ce que j'ai compris. Ce que j'en ai retenu, c'est qu'ils ont surtout tout de suite abordé le sujet des violences policières, parce qu'ils étaient vraiment révoltés dès le départ, de voir la réaction, on va dire, de la police, alors que quand on sait ce qu'on a observé après, c'est-à-dire que ils ont pu se réunir quand même tous les soirs et avec des structures légères, remballer le soir même, si seulement il y avait une entrevue service de la police pour tout de suite poser les choses, on aurait démarré sur des meilleures bases, quoi.
Ouais. Alors tout à l'heure, on parlait d'aller vers une 6e République ou une 5e bis, c'est l'expression que vous utilisiez tout à l'heure, Sophie Renaud. Est-ce que justement, il y a des propositions très concrètes de nouvelles instances qui pourraient prendre place, avoir toute leur légitimité pour faire évoluer la construction des politiques publiques? On parle par exemple de ces instances qui existent dans certains pays d'Europe du Nord, comme les conférences citoyennes, qui a priori donnent des résultats plutôt positifs.
J'en reviens encore à la présidentielle de 2007 parce que je considère qu'il y avait un projet alternatif vraiment très intéressant de démocratie participative, de mise en place de jurys citoyens, ce qui a été fait d'ailleurs dans certaines communes et régions.
D'ailleurs, le nouveau cadre législatif sur la politique de la ville impose d'ailleurs, on appelle ça les conseils citoyens, je crois, mais en tout cas, c'est le principe d'avoir des personnes tirées au sort
Voilà, et pour la gestion des budgets participatifs, mais c'est encore très timide. Mmh. C'est vraiment une attente de la population. L'avantage des jurys citoyens, c'est que ce sont des gens tirés au sort. Après, ils acceptent ou ils n'acceptent pas. Hein. On n'est pas dans un jury d'assises. Hein. Donc là, effectivement, à partir du moment où les gens sont tirés au sort et on les investit d'une mission citoyenne, c'est comme s'ils endossaient un petit peu un devoir de répondre à cet appel, et moi je trouve ça formidable. Donc pourquoi ne pas inscrire un projet de plus grande envergure dans les lignes programmatiques pour les présidentielles de 2017? Ça me paraît quand même vraiment le minimum, quoi.
Et en même temps, dans la dernière émission, Emmanuel et Émilien, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on recevait des personnes impliquées qui sont dans des conseils de quartier depuis des années et qui finalement étaient très déçus et défaitistes sur ce qu'il en sortait, et pourtant ils disaient il faut continuer, il ne faut pas lâcher.
Ah oui, alors les conseils de quartier, Rouen a été quand même à l'avant-garde en matière de création de conseils de quartier. J'ai été conseillère de quartier. J'ai toujours rencontré des gens formidables, très investis pour le bien collectif, le bien commun. Y a eu des choses formidables qui ont été faites, mais effectivement, c'est au niveau des budgets, on en revient à ça. Il n'y a pas vraiment d'augmentation possible, drastique de budget dans le temps. Et à ce moment-là, dès qu'on aborde ce sujet-là, on est obligé d'aborder le budget communal. Pourquoi le budget communal rencontre des difficultés? Parce que l'État ne reverse pas ce qu'il est dû aux collectivités, les dotations. Pourquoi l'État ne reverse pas? Parce que le budget de l'État s'assèche au fur et à mesure que la dette souveraine, etc., augmente. Bon, pourquoi on ne fait
temps,
pas...
Ce qu'il nous disait, c'était que oui, il y a cette question des budgets participatifs, des moyens. Et une autre remarque forte sur laquelle ils insistaient, c'était que on nous demande notre avis, mais sur des projets qui sont trop avancés pour que notre avis ait un réel impact sur la configuration d'un aménagement, du fonctionnement de... Voilà, et donc qui se sentaient être arrivés en bout de course, et finalement que leur capacité à avoir la main sur des choix politiques au sens noble, donc sur comment on vit ensemble, l'aménagement, etc., était trop limitée pour que ça ait vraiment du sens.
Oui, d'autant plus que j'ai souvenir qu'à l'époque, il avait été proposé d'inviter des experts de l'urbanisme au sein des conseils de quartier pour justement qu'il y ait une rencontre experts et citoyens bénévoles. Je suis partie à ce moment-là du conseil de quartier, mais je sais qu'il y a eu des rencontres d'experts. Les structures avec la création nouvelle de la métropole qui va reprendre des prérogatives nouvelles qui étaient vouées aux communes. Je pense que là, on est dans une année de flottement. Même pour le personnel, il faut que tout le monde trouve sa place, ses prérogatives. Donc, j'espère que ça va vite se clarifier pour tout le monde et qu'enfin, on va pouvoir avancer vers 2017.
Très bien. Je vous propose une nouvelle pause musicale. Et juste après, on écoute la chronique d'Emmanuel. Je ne sais pas dans quel univers il va nous emmener, mais on découvrira ça tout à l'heure. Et en attendant, Action Bronson. I got a brand new car.
Everybody. Yeah, thank you a lot for coming. It means a lot to me. Steady out with my knee, plenty of botany. Damn, bad chick on top of me, pornography. And I know she only want me for my guapery. Let me get my voice right. Gary, sorry. 1, 2, 3, 4. It's the first time ever. Yo, fuck this jacket, I turn this shit to 85 knackers. Since she just done, I'm now the captain. Trust you, me, got them safer now. But there's always a new joker in town, ready to smoke you with that pound. But when he shoot it, the flag says bang and everybody laughs. He must be open off the molly tabs. I'm by the bar looking Swedish in a trench coat, stupid. The only one drinking mango lassie in a bullpen. My lips are sealed like the singer with bad skin. My need for speed made the jack spin. Dog, I resurrect freaky time to do my ad-libs. Overseas, I probably got mad kids that I don't even know about. You better slow down, baby. I'm still young, fuck it. Gotta use it while it works. Nothing lasts forever, or does it? Fuck it. Shout out to my cousins, all of them. Take
take it back to playing handball or smoking on the park benches, dipping cabs and hopping fences, laughing all the way back to the building running. Got to the door, twist the key, elevator waiting for me, 100. Got upstairs and fixed 11 bowls of Crispix. Grabbed the Snapple out the bin, no one's an even match for the kid. Legs are made of stone, the back of a bridge. In goal line situations, I'll tackle the fridge. Piece the mic, dick of 50 on a light fixture. Right side shift, the fight fixer. Twist your sister, and I ain't talking about the headband. Motherfucker, it's Bam Bam doing I with the I can't even get this fucking right, are you kidding me? I'm ashamed of myself. I'm sorry.
Action Bronson dans HDR, dans ton livre sur HDR. L'album s'appelle Sincerely Mr. Wonderful. Voilà, toujours ensemble dans ton livre jusqu'à 20h. On parle de démocratie, de nuit debout, mais l'heure est venue de la chronique d'Emmanuel.
Alors, c'est un petit peu le hasard parce que ça n'a pas de rapport.
Mais c'est très bien. Pour changer.
Comme dit Emilien. Mais en même temps, c'est complètement dans le sujet.
Ah.
Voilà. C'est à partir de... En fait, je suis en train de me faire tous les films de Jean-Luc Godard.
Ah.
Voilà, donc notamment...
Rétrospective Godard exactement.
Exactement.
Emmanuel, rendez-vous
tous notamment, les soirs. Notamment avec un très beau coffret de Godard politique qui était vraiment excellent, quoi. Coffret remarquable. Et... J'ai tiré ces Godard qui racontent, puisqu'ils ont été très proches et après très fâchés, mais bon, c'est pas grave, hein, très proches. C'est Godard qui raconte un mot de François Truffaut. Et je me suis servi de ce mot pour écrire cette chronique qui était liée à la démocratie. La situation était devenue intenable. Les étagères se vidaient, on restait impuissants. Les unes après les autres, en groupe, parfois, les œuvres disparaissaient malgré nos mains les agrippant. Ici, deux livres. Là, un coffret de films. Tout y passait. Tout Duras, tout Gailly, Verne, Michaud, Ponge, Perret, Breton et Pérec étaient déjà partis. Truffaut, Tarkovski, en volaient aussi. Peinture et photographie n'échappaient pas à l'affaire, qui dans les musées et galeries s'effaçait parfois devant les visiteurs ébahis qui allaient après demander à être remboursés de leur ticket d'entrée. À la musique arrivait la même chose, et tout à coup l'orchestre en sourdine de jouer, ou le CD sur la platine, jouant le silence, plage après plage. Mais le plus étonnant était la dissolution instantanée et sans alerte de bâtiments entiers. Et tous les gens dedans à vivre, travailler, de se retrouver à terre, à mât, affalés. On avait préparé des piles de livres, les avait déplacés et cachés dans des souterrains non répertoriés, des abris, des planques, fabriquant à la va-vite des bibliothèques immenses. On gardait à l'abri les peintures, aussi les photographies. Peine perdue. On cherchait un médium nouveau dont le produit n'aurait pas d'auteur, un médium sans œuvre pour une permanence infinie. On devait trouver comment fondre ce qui existait et ce qui devrait exister dans le collectif, l'anonyme, sans individualité, sans personnalité, pour tous, en tous. La loi votée sur la disparition des œuvres après la mort de leur auteur par le gouvernement allait bon train. La tâche était immense. Ils œuvraient bien. Ne resterait bientôt que celle en mémoire, celle à raconter. On les mimerait, les dirait, et se remettrait au travail. Tout, sans cesse, à recommencer.
J'ai noté cette... non, j'ai été surprise, je n'étais pas prête. À la fin, j'étais sur ma palette en train de toucher tous mes boutons. Bref, la question de l'individualité à gommer ou pas. Et peut-être que, justement, La Nuit Debout, c'est peut-être une œuvre aussi qui est en train de s'écrire, de se construire collectivement. Et puis, la question que tout le monde se pose, c'est cette œuvre. Quel sera son poids, sa portée et la forme aussi qu'elle prendra.
C'est ce que j'ai entendu il y a pas longtemps. Il y avait une histoire sur qui devait aller lors d'un entretien télévisé représenter Nuit Debout. Et évidemment, personne. Et alors certains disaient, il est hors de question que quiconque y aille. Et si jamais quelqu'un y va, il ne nous représente pas, puisqu'on ne peut pas être représenté par une personne unique qui deviendrait. Et on est bien d'accord qu'on est dans un discours différent aujourd'hui. Mais et voilà, moi je trouve que c'est important. Oui, c'est vrai que j'aime bien. En fait, la phrase de Truffaut vient d'un propos sur Henri Langlois qui avait monté la Cinémathèque française et qui voulait que les choses restent au-delà de la disparition même de la pellicule, puisqu'on savait déjà que la pellicule allait, n'était pas pérenne et allait disparaître. Et finalement, on est dans un culte de la personnalité aujourd'hui, y compris des artistes, de l'œuvre. Bah, je veux pas être méchant avec les artistes, je les aime bien, mais de l'œuvre en général, qui est un culte absolument terrible. Pendant longtemps, moi, je me suis battu pour que les étudiants en architecture, par exemple, sachent quel était l'architecte du bâtiment dans lequel ils vivaient, ou sachent quel était le nom du designer de la voiture dans laquelle ils roulaient. Et finalement, je trouve que ça n'a aucune importance. C'est-à-dire, je me balade dans Paris et je vois les gens dormir sur des matelas, et je trouve que le reste, franchement, n'a aucune importance. Donc, je trouve bien cette histoire qu'en effet, tout... bon, moi, je suis... Je suis pas front de gauche, hein, je suis
anarchiste,
un petit peu plus encore, mais je trouve bien aujourd'hui qu'on aille défendre une autre idée, voilà, une idée réellement collective qui n'est pas une idée rétrograde ou qui n'est pas une marche en arrière, puisqu'en fait elle n'a jamais été réellement faite, cette chose-là. Godard en parle, et je trouve très bien, il parle de la dictature du prolétariat, et il dit que les révisionnistes, les soviétiques, comme d'ailleurs le PC français, finalement n'étaient absolument pas pour la dictature du prolétariat, c'est-à-dire que après la Révolution, il n'y avait plus de dictature du prolétariat. Il y avait juste un régime qui était au pouvoir et que ça n'avait absolument rien à voir. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant. Alors, je ne suis pas totalement... je ne donnerai pas d'avis sur la Nuit debout. Ce qui me gêne de Nuit debout, si je donnerais un avis, ce qui me gêne, c'est que ça a démarré par l'histoire de la loi sur le travail et qu'il y a tellement de raisons en France que tout est explosé depuis tellement d'années, mais bien avant cette histoire.
Oui, oui, tout à fait. Par Émilien, tout à fait. C'est la goutte d'or. Ce n'est
exactement.
Non,
mais enfin, pour aller maintenant travailler à Paris, moi, la société dans laquelle on vit est réellement à vomir, quoi.
Alors tout à l'heure, tu as dit cette culture de la personne, l'homme providentiel, c'est aussi la question qui va se poser dans à peu près un an en France avec les élections présidentielles. Et justement, c'est un peu le grand débat. Est-ce qu'il faut attendre ou pas l'homme providentiel, l'homme ou la femme providentielle? Et en tout cas, c'est aussi une des questions qui se pose à Nuit debout et puis assez largement dans la société, puisque on a vu émerger, ça s'appelle, le site internet, c'est laprimaire.com. Et l'idée, c'est de faire émerger que puissent se présenter tous citoyens qui construisent un programme, mais on commence sortir. Alors, c'est peut-être la Ve République, hein, évidemment, tout simplement, qui fait ça, mais que cette élection présidentielle, on mise sur un homme, une femme, est-ce qu'on mise sur le bon cheval ou pas, et puis qui
mais
ensuite...
Mais on peut plus, ça.
Voilà.
On peut
et,
plus.
Alors, Sophie Renaud, justement, vous... Votre combat, vous voulez aussi lui donner du sens en vous présentant à la primaire de la gauche. C'est ce que vous avez décidé de faire. Hein. Je suis sur votre blog Mediapart où vous dites « Une citoyenne parmi tant d'autres, militante du Front de Gauche, déterminée à participer au changement vrai ». Donc voilà, c'est votre objectif, participer à ces primaires. Alors comment justement vous vivez cette dualité d'un mouvement citoyen qui se veut horizontal, sans aucun porte-parole, et puis ces institutions qui oblige à faire émerger des personnalités, élaborer un programme et voilà, rentrer dans l'arène des élections?
Alors premièrement, nous ne sommes pas en démocratie. Nous construisons depuis plus de 2 siècles et demi un projet de démocratie, mais nous sommes loin d'avoir atteint la démocratie. Je comprends tout à fait l'indignation d'Emmanuel. C'est clair, vraiment notre société tourne vraiment à l'envers, marche sur la tête, enfin voilà. Pour ce qui concerne les primaires, effectivement, il est grandement temps de proposer des primaires participatives ouvertes à tout citoyen qui veut en conscience présenter des idées, formuler des propositions, nourrir le débat politique, l'oxygéner et faire en sorte que un programme présidentiel se profile beaucoup plus démocratique, beaucoup plus innovant que ce qu'il n'a été jusqu'à ce jour, que la simple répétition complémentaire avec quelques ajouts au fil des élections et qui, en fin de compte, ne satisfait vraiment personne, quoi, parce que...
Alors Jacques Attali a dit en 2017 le futur président sera un inconnu. Vous y croyez ça? Et puis voilà, est-ce que...
Oh, monsieur Attali a toujours des grandes déclarations.
Je savais que ça ferait réagir, mais voilà, j'avais envie de...
Bon, je lis ses bouquins, hein, ouais. Mais oui, monsieur Attali a toujours des grandes formulations.
Vous y croyez ça, que 2017
une élection n'est jamais faite avant de se dérouler, ça c'est la première chose. Ensuite, on sait très bien que François Hollande est arrivé dans la campagne des présidentielles après maintes rebondissements. Bon, voilà. Alors que ça ne devait pas forcément être lui au départ qui devait être là. Et pourtant, il a gagné cette élection. Et pourtant, on a été majoritairement à porter sa voix, son bulletin de vote pour lui, surtout pour faire partir l'autre précédent. Aujourd'hui, effectivement, quelle est la perspective dans une situation après une année 2015 dramatique, après une année 2016 où on pense plutôt les plaies, une année 2017 où on se dit on va rebondir, toute la société française va rebondir, l'espoir va revenir, etc. Donc je suis convaincue que les primaires doivent être participatives cette fois-ci. Je pense qu'il y en a 4 qui se profilent à l'horizon, 2 à droite et 2 à gauche, et qu'elles doivent être là pour nourrir le débat, faire émerger des idées, synthétiser ces idées et les porter par un porte-parole-là, hein, pas une personnification, c'est hors de question, par des porte-parole-là auprès des candidats qui vont en finalité continuer le chemin. Voilà, c'est l'idée de primaires participatives.
Ouais. Alors, affaire à suivre, on a un an pour voir ce qui va réellement se profiler pour ces élections. Et en même temps, combien même on aurait un inconnu, en tout cas de la sphère politique actuelle, qui accédait à la présidence? Est-ce que les marges de manœuvre aujourd'hui, elles sont suffisamment grandes à l'État français seul? Ou est-ce que la question de l'Europe, par exemple, est-ce qu'elle est traitée à nuit debout, des relations entre... Alors, ce sont les mêmes hommes politiques, évidemment, qui prennent les décisions, mais dans des enceintes plus larges qui sont prises, les directives européennes qui s'imposent au droit français, etc.
Alors, justement... Alors,
évidemment, il nous reste quelques minutes pour ouvrir un débat qu'on mériterait des heures et des heures, mais en quelques mots.
En quelques mots, c'est quand même la Commission européenne qui donne la directive à la France de rénover son code du travail parce qu'on est à la traîne des autres pays. C'est absolument mais scandaleux. Cette loi El Khomri, elle est insupportable, quoi. Elle vient à la suite d'injustices successives. Le monde du travail est en souffrance. Les gens sont près de... Il y a 1 million de personnes proches du burn-out et on veut nous balancer cette loi qui va imposer au lieu de 8 heures par jour, 10 heures par jour pour les apprentis, etc., etc. Non, ça n'est plus possible. Moi, je fais partie de celles et ceux qui sont persuadés qu'il faut vraiment révolutionner notre système démocratique et que cette fois-ci...
à la fois en France et au niveau européen.
Mais bien évidemment, la Commission européenne est complètement illégitime. Ce sont des gens cooptés qui sont inattaquables juridiquement à vie, mais on est aux antipodes de la démocratie, quoi. Donc,
alors, est-ce que justement il y a des liens européens qui se font? Alors, a priori, Nuit debout a été repris un peu en Belgique, des choses se passent par ailleurs. Il n'y a pas très longtemps, j'ai écorché son nom, Yakis Varoufakis,
c'est ça? Yanis Varoufakis,
qui est venu à Nuit debout à Paris, alors, aussi pour faire un peu entre guillemets la promotion du mouvement qu'il a lancé il y a quelques semaines. Mais des connexions comme ça internationales qui font que les échos se multiplient, se propagent pour avoir cette réflexion européenne.
Oui, en Allemagne, au Portugal, en Belgique, même à Bruxelles, il y a une nuit debout. Dans d'autres pays européens, effectivement, le député européen Iglesias est venu apporter son soutien très officiellement à la Nuit debout. Yanis Varoufakis, comme vous venez de le dire, est venu. Effectivement, c'est trans pays européen. J'espère que ça va continuer à se répandre dans toute l'Europe et qu'enfin, ces messieurs du Conseil européen et de la Commission vont commencer à ouvrir une oreille.
Donc... affaire à suivre, forcément. Mais et alors, vous, dans cette perspective de cette primaire, vous travaillez sur un programme. Alors justement, comment vous arrivez à travailler sur ce programme? Vous êtes toute seule dans votre petit bureau face à votre ordinateur ou face à votre feuille de papier, ou vous avez réussi embarquer une dynamique collective.
C'est le fruit d'observations, de 25 années d'observation, de militantisme, de gens écoutés sur le terrain. Mmh. Et je me suis dit, bon, je vais avancer, après tout, je vais lancer quelques grandes lignes, et c'est devenu 21 têtes de chapitre.
D'accord.
Et à partir de là, je commence à développer au fur et à mesure, donc j'écoute à Nuit Debout, j'observe, j'écoute dans les médias, et puis aussi la volonté de participer à un mouvement révolutionnaire, parce que ça n'est plus tenable de continuer sur cette lancée. On va vraiment pas, ça va pas, quoi. Faut vraiment changer les choses, et moi je fais partie des gens qui sont persuadés qu'une révolution non violente, bien évidemment, il est temps qu'on passe à l'âge adulte au niveau institutionnel, n'est-ce pas, et qu'on révolutionne de manière tranquille, oui, mais ouais, véritablement.
Alors ça sera plus une question, une ouverture peut-être pour un prochain débat, mais est-ce que la révolution tranquille existe?
Je pense que on a eu la France tranquille déjà
et voilà la révolution tranquille, nouveau slogan, la communauté de l'espoir et la révolution tranquille. Est-ce qu'il faut miser sur l'expression? C'est vrai que si on regarde dans le passé, je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'exemples qui répondent à la juxtaposition de ces deux mots. Je vous propose que, avant de se quitter, parce que nous sommes à moins de 5 minutes de la fin, mais pour vous faire plaisir, Sophie Renaud, nous allons passer un morceau. Hommage. Alors ça aurait pu être un hommage à Prince pour faire plaisir à Emilien, mais non, ce sera Me and Mrs. Jones, un morceau de Billy Paul que vous aimez tout particulièrement, Sophie Renaud. Donc on se quitte en musique. Je vous souhaite une très belle soirée sur HDR, bien sûr. C'était un plaisir d'être avec vous pour ce temps libre. On se retrouve dans 15 jours. D'ici là, soyons un peu fous, continuons de rêver. Billy Paul.
Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go. Cafe 6:30, and no one knows she'll be there. Holding hands, making all kinds of plans, while the jukebox plays a favorite song. Me and Mrs. Jones. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We don't build our hopes up too high, 'cause she's got her own obligations, and so do I. Me and Mrs. Jones. But it's much too strong to let it go now.
inside. Now she'll go her way and I'll go mine. Tomorrow we'll meet the same place, the same time. And Mrs. Jones.
Sur HDR. Ciao à tous.